Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et la tribune. Au programme, anxiété des jeunes, cessons de faire peur au public. Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Et des murs qui ressuscitent. Bonne écoute.
Anxiété des jeunes. Cessons de faire peur au public. Un texte de Sonia Lupien et 12 co-signataires, paru le 16 février 2023 dans La Presse. En tant que chercheurs et professionnels de la santé mentale, nous observons typiquement que de 20 à 25% des jeunes sont aux prises avec des problèmes d'anxiété. Or, si l'on en croit les statistiques récemment véhiculées dans certains rapports présentés dans les médias, ce serait maintenant le double des jeunes qui souffriraient d'anxiété. Bien que nous soyons conscients que la pandémie ait pu affecter la santé mentale de certains, 50% des jeunes qui souffrent d'anxiété, c'est beaucoup. Or, en recherche, on dit souvent que des affirmations extraordinaires nécessitent des données extraordinaires. Il est donc important de se demander si ces affirmations extraordinaires, issues de vrais résultats de recherche, peuvent provenir d'interprétations abusives. À titre de chercheurs scientifiques et cliniciens, nous souhaitons informer le public des divers biais qui peuvent avoir un impact sur les résultats obtenus et sur leur interprétation. Ainsi, avant d'affirmer que plus de la moitié des jeunes souffrent d'un problème d'anxiété, plusieurs précautions doivent être prises. Il faut s'assurer que le portrait de l'anxiété des jeunes a été obtenu à plusieurs reprises. À l'adolescence, il est attendu et tout à fait normal de vivre des émotions négatives importantes et passagères. Avoir plusieurs symptômes d'anxiété n'est donc pas un problème en soi. Cela devient inquiétant seulement lorsque ces symptômes se maintiennent dans le temps. Ainsi, s'inquiéter d'un pourcentage élevé de jeunes qui disent vivre des manifestations d'anxiété alors que ces symptômes n'ont été mesurés qu'une seule fois est une conclusion hâtive. Il faut vérifier que les données obtenues ne sont pas biaisées. Les études réalisées en ligne amènent souvent un biais faisant en sorte que les statistiques rapportées représentent uniquement la réalité d'une partie des jeunes, c'est-à-dire ceux et celles qui choisissent de répondre au sondage. Ainsi, même si une étude a été réalisée auprès d'un échantillon de milliers de jeunes, si seulement 50% des jeunes invités à participer à l'étude ont répondu au sondage, il est tout à fait possible que les données ne représentent qu'un portrait partiel de la situation, celui des jeunes qui vont le plus mal. Pourquoi? Car il y a fort à parier que les jeunes qui se sentaient bien ne se sont pas sentis interpellés par l'étude et n'ont pas répondu au sondage. Il faut éviter de ne mesurer que du négatif. Si une étude ne mesure que des états négatifs, elle ne trouvera que des états négatifs. Avoir des émotions négatives durant une période de bouleversement est normal et sain en soi. L'intensité de ces émotions est moins inquiétante si les jeunes utilisent leur optimisme, leur résilience et d'autres stratégies pour s'adapter à la situation. Malheureusement, ces aspects positifs sont rarement mesurés dans les études montrant des statistiques extraordinaires ou sont très peu présentés dans les médias pour nuancer le portrait négatif. Il faut distinguer l'anxiété normale de l'anxiété pathologique. L'anxiété n'est pas toujours un problème. En fait, c'est une émotion essentielle permettant de se préparer à une situation que l'on trouve importante et qui peut même faciliter la performance, par exemple, lors d'un examen. Cette nuance est peu présentée au public et l'on combine souvent les proportions de jeunes qui vivent des niveaux modérés et sévères d'anxiété pour avoir une statistique plus frappante. Or, il n'est pas du tout certain qu'un niveau modéré d'anxiété soit dommageable pour les jeunes qui font face à des stresseurs du quotidien, par exemple transition scolaire, période d'examen ou de choix de carrière. Présenter au public des statistiques extraordinaires sur l'anxiété des jeunes pourrait avoir de graves conséquences. D'abord, parler toujours aussi négativement de l'anxiété dans la sphère publique pourrait rendre les jeunes craintifs de ressentir de l'anxiété, alors que celle-ci est souvent gérable, saine et normale pour la majorité d'entre eux. Les études montrent que cette peur de vivre l'anxiété peut propulser un jeune adulte vers le développement d'un trouble anxieux. Ensuite, nous craignons qu'à force d'envoyer le message que plus de la moitié des jeunes souffrent d'anxiété, nous soyons en train de noyer la voix de ceux pour qui l'anxiété est devenue pathologique, inquiétante et qui nécessite effectivement une aide ciblée. Leur voix pourrait se perdre dans une mer de jeunes encouragés à craindre leur anxiété normale, croyant qu'ils souffrent d'un grave problème. Nous invitons donc à une certaine critique face à ces données très intéressantes, mais qui nécessitent des nuances. Nous nous devons de présenter les résultats de nos recherches en évitant des mots catastrophisants et dramatisants. Cessons de faire peur au public et favorisons plutôt une conclusion qui permette aux jeunes de retrouver un sentiment de contrôle réaliste face à leur anxiété. À elle seule, cette rigueur scientifique pourrait contribuer à diminuer le stress et l'anxiété chez les jeunes et leurs parents. Sonia Lupien est chercheuse à l'Université de Montréal et directrice du Centre d'études sur le stress humain, et 12 autres signataires. Isabelle Plante, chercheuse, UQAM, Audrey-Anne Journeau, doctorante, Université de Montréal, Réal Labelle, chercheur et clinicien, UQAM, Marie-France Marin, chercheuse, UQAM, Claudia Trudel-Fitzgerald, chercheuse UQTR, Isabelle Ouellet-Morin, chercheuse Université de Montréal, Robert-Paul Juster, chercheur Université de Montréal, Stéphane Gay, chercheur Université de Montréal, Pascal Brion, chercheuse et clinicienne UQAM, Jonathan Bluteau, chercheur UQAM, Marie-Claude Geoffroy, chercheuse Université McGill, Annie Dubeau, chercheuse UQAM. C'était Anxiété des jeunes, cessons de faire peur au public, un texte de Sonia Lupien et 12 co-signataires, paru le 16 février 2023 dans La Presse.
Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. Que diriez-vous d'un médecin qui pratique sans se soucier de la science? D'un chirurgien ou d'un radiologiste qui prend des décisions sans se baser sur des données et des preuves scientifiques? Ce serait bien sûr inacceptable, voire dangereux. Pourtant, les réformes du réseau de la santé et des services sociaux ont été menées au cours des deux dernières décennies sans s'appuyer sur des bases rigoureuses établies par la recherche sur les services de santé. Rien d'étonnant alors de constater l'échec de ces réformes et ses conséquences néfastes sur l'accès à des services de qualité. La médecine s'appuie maintenant de plus en plus sur des données probantes obtenues à la suite de nombreuses études scientifiques menées de façon rigoureuse à travers le monde. D'abord, avant d'être financées, ces études font l'objet d'une évaluation indépendante par les pairs, les collègues chercheurs experts du même domaine, afin de s'assurer de la rigueur du projet. une évaluation éthique minutieuse, voire parfois tatillonne, assure la sécurité et la probité de l'étude projetée avant de recruter des participants. L'expérimentation est ensuite menée en ayant soin d'éviter tout biais pouvant fausser les résultats. Puis, une nouvelle évaluation par les pairs survient lors de la publication des résultats. Comme la preuve scientifique ne peut s'appuyer sur une seule étude concluante, l'expérimentation doit être répétée par d'autres chercheurs sur d'autres populations pour confirmer les conclusions. Une analyse de plusieurs études, une méta-analyse ou une revue systématique permet de combiner les différentes expérimentations pour obtenir une preuve scientifique solide. Finalement, des comités d'experts traduisent ces preuves en recommandations ou guides de pratique clinique. C'est ce processus qui est à l'origine de l'utilisation des tests diagnostiques ou des traitements par le médecin. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, ou la médecine basée sur des preuves. Il existe tout un champ de recherche aussi rigoureux et systématique pour étudier l'organisation et la gestion des services de santé. Comme on s'adresse souvent à des populations et des systèmes, les méthodes de recherche sont différentes, mais la même rigueur y est appliquée. De la conception de l'étude jusqu'à sa publication et à l'examen combiné des expérimentations semblables pour obtenir une preuve solide. Cette science de l'administration de la santé est enseignée dans les universités. On y mène des travaux, financés par les organismes nationaux et internationaux de subvention, qui sont publiés dans des revues scientifiques dédiées. Les gestionnaires et dirigeants de notre réseau ont souvent été formés dans les programmes de ces universités. On y enseigne comment appuyer ces décisions et orientations sur des données probantes. C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Informed Decision Making, ou les décisions éclairées par les données probantes. Comme le médecin, tout gestionnaire ou dirigeant devrait toujours baser ses décisions sur des preuves scientifiques. Les résultats d'une étude sur un médicament ou un test diagnostique peuvent être facilement transposés et appliqués à d'autres populations. Il n'en va pas de même pour la recherche sur les services de santé, où le contexte et la population visée peuvent être déterminants sur les résultats d'une intervention. C'est pourquoi il faut être plus prudent avant d'appliquer une intervention, pourtant efficace, à une autre population, dans un autre contexte. C'est ce qui explique qu'on parle davantage de décisions éclairées par les données probantes et non basées sur des données probantes comme en médecine. Il est désolant de constater que les réformes majeures des 20 dernières années n'ont pas été éclairées par des données probantes. Auparavant, une réforme était souvent précédée par un examen rigoureux au moyen d'une commission d'enquête ou d'un groupe de travail. Ainsi, les recommandations des commissions Castonguay, Rochon et Claire ont toutes été appuyées sur un examen rigoureux et exhaustif de la littérature scientifique pertinente. Il n'en fut pas de même lors des réformes Couillard en 2003 et Barrette en 2015. Des réformes majeures, concoctées par des ministres médecins qui n'ont pas appliqué la même rigueur scientifique à transformer le système de santé que celle qu'ils ont apprise et appliquée pour traiter les malades. La commission parlementaire chargée d'examiner la réforme Barrette a pourtant reçu des témoignages de plusieurs scientifiques venus démontrer que cette réforme n'aurait pas les impacts anticipés à la lumière des connaissances scientifiques. On les a ignorés avec le résultat que l'on connaît. On a préféré se baser sur des idées alléchantes, mais non éprouvées. Dans ce domaine, le cimetière scientifique des bonnes idées est vaste et, comme chercheur en ce domaine, j'y ai souvent contribué. Un exemple. je souhaitais démontrer que des visites préventives par une infirmière formée auprès de personnes âgées à risque pouvaient permettre de détecter et d'intervenir précocement pour prévenir la perte d'autonomie. L'expérimentation que nous avons menée n'a pas démontré d'impact significatif d'un tel programme. Ce résultat a par la suite été reproduit dans d'autres pays avec les mêmes résultats. Ce qui avait l'apparence d'une bonne stratégie s'est donc avéré un mirage. Pourtant, ce genre de programme continue malgré tout d'être implanté dans plusieurs régions du monde avec des investissements en ressources humaines et financières considérables. On ne retrouve pas au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et dans les établissements de santé une culture de décision éclairée par des données probantes. Et pourtant, dans notre système public universel, on en a des données, mais pour toutes sortes de raisons, on ne les utilise pas. Il n'y a plus d'équipe solide dédiée à l'évaluation et au développement au ministère et dans les établissements. Comment une entreprise avec un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars peut-elle se développer et améliorer ses services sans un secteur de recherche et développement? La R&D, recherche et développement, comme on l'appelle dans le secteur privé, est une condition essentielle à la survie d'une organisation et à son adaptation constante aux besoins des clients ou des usagers. Dans les établissements, on applique bien souvent des méthodes et programmes à la mode, prônés par des consultants rémunérés grassement. La fameuse méthode Lean ou Toyota en est un bon exemple. Bien qu'implantée largement dans le réseau à grands frais, les preuves scientifiques de son efficacité en santé sont plutôt faibles. Lorsque de nouveaux services, programmes ou politiques sont implantés, il n'y a aucun souci d'évaluer leur effet autrement qu'en utilisant quelques indicateurs, liés beaucoup plus au processus. Exemple, nombre de services offerts, temps d'attente. Qu'au résultat, exemple, nombre de vies sauvées, amélioration de l'état de santé, satisfaction des patients. C'est d'ailleurs le jugement porté par le vérificateur général et le commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, lors de leur récent rapport. Les quelques études scientifiques sur la réforme de 2003 et certains programmes gouvernementaux, groupes de médecine de famille, guichets d'accès, par exemple, sont plutôt réalisés par des chercheurs universitaires avec un financement indépendant. Les effets désastreux des dernières réformes devraient nous alerter quant à la nécessité d'appuyer des décisions de gestion ou de réforme sur des données probantes. Toute nouvelle politique, programme ou service devrait obligatoirement faire l'objet d'une évaluation rigoureuse quant à sa mise en œuvre et à son impact sur la santé de la population. Nous ne pouvons plus diriger et gérer un système de santé sur la base de lubies colportées par des gourous mal avisés. La science de l'administration des services de santé existe. Il faut en profiter pour utiliser judicieusement les ressources limitées de l'État au plus grand bénéfice de la population. C'était « Gérer la santé en s'appuyant sur la science », une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune.
Ressuscite. Un texte de Mario Girard, paru le 9 février 2023 dans La Presse. Hubert Sassy est un véritable turbo. Après une trentaine d'années à la tête d'Éducalcool, l'homme met aujourd'hui son énergie légendaire au service d'une multitude de conseils d'administration et d'organismes communautaires. Il m'en a fait la liste et j'étais étourdi. Mais il lui fallait plus encore. Un projet qui allierait son amour du patrimoine et ses élans créatifs. Il a trouvé tout cela entre les murs de l'église Sainte-Madeleine d'Outremont. Ce lieu, qui souffre de la flamboyance de ses consoeurs Saint-Viateur et Saint-Germain, cache de véritables trésors. Les fidèles qui assistent aux messes savent-ils que sous la peinture insignifiante des murs et des plafonds sommeillent de splendides tableaux et œuvres murales du peintre d'origine italienne Guido Nincheri. Surnommé le Michel-Ange de Montréal, cet artiste débarqué à Montréal en 1914 a décoré plusieurs églises du Québec, dont Saint-Léon-de-Westmount, Saint-Viateur, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Rédempteur, mais aussi d'autres lieux comme le Château du Frêne. Il est aussi l'auteur des œuvres murales de l'église Notre-Dame de la Défense dans la Petite Italie. Un des tableaux de l'abside a ceci de particulier qu'il offre la présence de Mussolini. L'artiste, qui a étudié la peinture à Florence, a illustré le traité entre le Saint-Siège et l'Italie signé par le fondateur du fascisme et le pape en 1929. Accusé de fascisme au début de la Seconde Guerre mondiale, Nincheri a été interné comme d'autres compatriotes à Petawawa. Sa femme a réussi à le faire libérer au bout de 3 mois en prouvant, croquis à l'appui, que son mari avait été forcé d'ajouter la figure de Mussolini dans son œuvre murale. En 1924-1925, au moment de construire Sainte-Madeleine d'Outremont, on a évidemment pensé à lui pour décorer les lieux. Sainte-Madeleine était en quelque sorte la paroisse des prolétaires d'Outremont, explique Hubert Sassy. Elle était surtout fréquentée par des ouvriers, notamment les travailleurs qui ont construit le chemin de fer de la gare de Triage. De 1932 à 1934, Nincheri a peint les murs et les plafonds de Sainte-Madeleine. Dans le transept nord, il a créé une série de tableaux installés selon la technique du marouflage, toile collée au mur. Il a aussi conçu un ensemble de vitraux d'une beauté à couper le souffle qui, fort heureusement, ont résisté au temps. Il faut le dire, le résultat était magnifique, mais plutôt chargé, ajoute Hubert Sassy. Une trentaine d'années après la réalisation de l'œuvre de Nincheri, l'Église catholique a connu une véritable révolution avec la tenue d'un concile œcuménique au Vatican communément appelé Vatican II. De 1962 à 1965, des centaines de membres influents ont réfléchi à des moyens de rapprocher cette religion de ses fidèles qui vivaient alors un énorme progrès social. Plusieurs changements ont été apportés et une vision plus épurée et plus proche des fidèles a émané de cela. Les églises qui furent construites par la suite ont alors connu un style beaucoup moins ostentatoire que celle du 19e siècle et du début du 20e siècle. Cette recherche de simplicité a frappé l'église Sainte-Madeleine lorsqu'on a décidé de recouvrir tous les murs et les plafonds d'une couche de peinture blanche qui a effacé du même coup l'œuvre de Guido Nincheri. Seul le tableau, Madeleine au pied de la croix, qui se trouve derrière le maître-autel, a été épargné. Fait intéressant. C'est la femme de Nincheri, Giulia, qui a servi de modèle pour la représentation de Madeleine. Le peintre a aussi utilisé ses enfants et ses neveux pour imaginer certains anges. Il a même offert son propre visage à Judas dans l'un de ses tableaux. Après avoir été dissimulé pendant 6 décennies sous une lamentable peinture qui hésite entre le blanc et le beige, voilà que certains tableaux de Guido Nincheri respireront de nouveau. Et cela devrait se faire en 3 mois. Des échafaudages ont été montés. Une première équipe s'affaire depuis fin janvier 2023 à nettoyer les surfaces. Des experts en restauration prendront le relais. C'est par un minutieux travail de grattage que les œuvres de Nincheri, protégées par un vernis, vont ressusciter. Pour le moment, trois œuvres situées dans le transept nord-ouest ont été ciblées. La résurrection de Lazare, Jésus chez Marthe et Marie dans la région du Jourdain, de même que Saint-Antoine Daniel et Saint-Noël Chabanel. Les travaux de restauration sont évalués à environ 175 000 $. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, près de 135 000 $ ont été amassés. Il manque environ 40 000 $ pour compléter le budget. Pour atteindre cet objectif, Hubert Sassy a eu l'idée de créer une série de manifestations qui ont comme point commun de mettre en valeur la culture italienne. Du 25 février au 26 mars 2023, cinq événements bénéfices se dérouleront avec la collaboration de plusieurs partenaires, dont le Consulat général d'Italie. Ainsi, on profite de la présence du contre-ténor Luigi Schifano, qui sera de la distribution d'Ena Damar à l'Opéra de Montréal, pour organiser un récital qu'il offrira le 24 mars 2023 en compagnie de l'organiste Andrea Cohen. Un autre public préférera peut-être le spectacle du groupe florentin Tempo Real et Electroacoustique ensemble le 14 mars 2023. On le sait, le sort de notre patrimoine prend parfois des allures de films d'horreur. La protection de ces traces du passé, qui est le nôtre, a besoin de batailleurs comme Hubert Sassy. C'est grâce à eux qu'on arrive à pouvoir dire « Je me souviens ». Il ne reste qu'à souhaiter que les murs sur lesquels vont bientôt revivre les œuvres de Guido Nincheri restent debout encore longtemps. Ça, c'est une autre histoire. C'était « Des murs qui ressuscitent », un texte de Mario Girard paru le 9 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.